On va parler aujourd'hui de ce fameux passage de Jésus à Gethsémané. Alors, j'ai mis des références, mais je me suis amusé à voir les quatre récits, hein, des différentes références, et à mixer tout ça en un seul récit. Donc, vous pouvez éventuellement, à partir de Matthieu 26, 36 à 56, me suivre à peu près. Hein, donc, si vous voulez ouvrir votre Bible dans Matthieu 26, 36 à 56, et puis moi je vais le lire, mais avec le mélange des quatre autres regards de l'Évangile. Quand vous êtes prêts, je commencerai. Vous verrez qu'il y a des choses que vous n'avez pas dans le passage, mais qui sont rajoutées dans Marc, ou dans Luc, ou dans Jean. C'était intéressant de faire la synthèse des quatre évangiles. Chacun dit une petite chose que l'autre ne dit pas. Donc, Matthieu 26, versets 36 à 56. Alors, moi, je vais faire le résumé. Hein. Alors, là-dessus, après être sorti, lorsque Jésus eut dit ces choses, il alla, selon sa coutume, avec les disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, à la montagne des Oliviers, où se trouvait un jardin, dans un lieu appelé Gethsémané. Ses disciples le suivirent. Il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse, de la frayeur et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, en fait, quelques pas en avant, il se jeta contre terre sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette heure s'éloigne de moi, hein, » dit une autre version. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas veillé une heure, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ?» Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis il s'éloigna de nouveau une seconde fois, à la distance d'environ un jet de Pierre, et s'étant mis à genoux, fit la même prière en disant « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne surent que lui répondre. Il les quitta et s'éloignant, étant en agonie, il pria plus instamment la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Puis après avoir prié, il se leva et alla pour la troisième fois vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez. Voici l'heure est proche. » Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Allons, voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, voici celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, arriva. Il marchait devant la foule. Avec lui, une foule nombreuse arriva armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Et lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Lorsque Jésus eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » On parle là des disciples. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Celui qui le livrait lui avait donné ce signe, celui que je baiserai, on parle de Judas, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. Aussitôt, dès qu'il fut arrivé, s'approchant de Jésus pour le baiser, il dit, « Salut Rabbi !» et le baisa. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent leurs mains sur Jésus et le saisirent. Et voici ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Un de ceux qui étaient avec Jésus, Simon-Pierre, qui avait une épée, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Il lui coupa l'oreille droite, hein. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Laissez arrêter. » Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. En ce moment, Jésus, prenant la parole, ensuite dit à la foule, aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures, les écrits des prophètes, furent accomplis. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et il se sauva tout nu. Intéressant de voir les quatre évangiles mélangés là pour faire l'histoire en entier. J'hésitais lequel prendre. On a dit pas que ça approche, hein, et... Est-ce qu'on pense à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à cette fameuse croix, à Golgotha ? Ce n'est pas qu'à Pâques qu'il faudrait y penser, mais bon, de temps en temps, c'est bien de s'arrêter et d'y réfléchir vraiment. Et je pense que Gethsémané, c'est un passage assez terrifiant pour le Seigneur qui va devoir accepter cette coupe dans ce jardin. Et en même temps, il va nous montrer là tout l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Vous auriez accepté la coupe, vous ? Vous seriez allé sur la croix pour moi ? Non, à mon avis, vous ne l'aurez pas fait. Vous m'aimez, mais pas trop encore, à mon avis. Mais lui, il l'a fait pour des pécheurs, pour moi qui ne le connaissais pas encore, pour moi qui ne l'aimais pas encore. Il a quand même accepté d'aller jusqu'à la croix. Et démontre là tout son amour, et surtout, il démontre là ce qu'est le combat spirituel. Parce qu'on en parle souvent du combat spirituel, et là, il y a un combat, mais à une dimension qu'on ne connaîtra certainement jamais, mais on peut en tirer certaines leçons. Alors on va voir ce combat spirituel d'abord de Jésus, la manière dont il a combattu lui, et puis on voit aussi que la souveraineté de Dieu est omniprésente, on va dire, dans ce combat, et dans les nôtres aussi. Donc Jésus a dû combattre spirituellement, hein, tout s'est fait dans son cœur, dans son âme. Il va se rendre dans ce fameux jardin de Gethsémané, le mot grec veut dire « pressoir à huile ». Alors ce jardin se trouvait à l'est de Jérusalem, pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, de l'autre côté du Cédron, il dit, il faisait environ 46 mètres sur 43 mètres, bon, 50 mètres on va dire, hein. C'est assez grand. C'est un endroit où Jésus aimait bien se retirer pour prier. Et moi, ce jardin de Gethsémané me pose la question à moi, est-ce que j'ai un endroit où j'aime bien me retirer pour prier ? Alors, c'est vrai que quand on est seul, ça va, il y a le calme, on va dire, dans la maison, mais... Quand on a 4 ou 5 enfants, alors d'un coup, c'est moins évident de trouver un endroit. Hein. Mais est-ce qu'on a un endroit qu'on aime beaucoup et où on va se retirer pour prendre du temps avec le Seigneur Jésus-Christ ? C'est tellement important d'avoir cet endroit. Et ce qui est intéressant aussi dans ce jardin, c'est que vous vous souvenez qu'Adam et Ève étaient dans un jardin au départ. Ils ont été tentés et ils ont chuté. Là, Jésus sera dans un jardin, il sera tenté, mais il sera victorieux. Une revanche, on pourrait dire, de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Il dit que Judas connaissait ce lieu. Hein, on est là le jeudi soir. Les 11 disciples, hein, les 11, hein, parce que Judas s'était écarté, suivaient Jésus dans son combat. Et c'est ce lieu qui était là, en fait, pour Jésus, comme un lieu de prière. Ben, Judas, lui, va le transformer en un lieu de trahison, quelque part. Quelle tristesse, en fait, hein, d'agir de cette manière-là. Les leçons qu'on peut tirer concernant le combat de Jésus à ce moment-là, c'est que Jésus, même dans le combat spirituel, il est Dieu. Il s'est quand même entouré, l'air de rien. Il a demandé à Pierre et aux deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, de venir avec lui et de l'accompagner dans ses moments de lutte. Il cherche un soutien, certainement. Je ne sais pas si c'était vraiment l'intention, mais il s'est entouré. Puis on a vu aussi qu'à un moment, Dieu lui envoie un ange pour le fortifier. Il n'est pas allé se battre tout seul, il a eu besoin d'aide. Jésus a eu besoin d'aide. Et nous, des fois, ben, on se démène tout seul. Hein. On essaie de se battre tout seul parce qu'on a un peu honte de dire aux autres que ben, j'ai besoin d'aide dans ma vie. Jésus lui-même a accepté l'aide des uns et des autres. Et on voit aussi que quand Dieu envoie cet ange, ben, Dieu ne l'abandonnait pas malgré les apparences. Au contraire, il lui a envoyé les moyens pour arriver à aller jusqu'au bout de ce qu'il devait faire à ce moment-là. Des fois, nous, on a l'impression d'être abandonnés dans notre vie par le Seigneur, hein, dans l'épreuve, dans la difficulté, on ne voit rien. Enfin, moi, je n'ai jamais eu d'ange encore qui est venu me fortifier, vous peut-être, mais pas moi. Et mais Dieu est là quand même. Et il donnera les moyens aussi d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces, nous dit la Bible. Et Jésus, dans ce combat, il va prier longtemps et plusieurs fois. Des fois, nous, on croit que quand on est dans la difficulté, allez, on va prier 10 minutes, c'est réglé. Voilà, c'est fait. Hein, mission accomplie, donc Dieu va m'aider. Jésus nous montre que lui, il a soutenu un long combat, même si ça ne durait que quelques heures. Mais il va prier longtemps et il va se jeter à terre. On voit là toute son angoisse, mais aussi son humanité, parce qu'on pourrait dire c'est Jésus, donc Jésus, il peut tout. Mais non, il est angoissé à mourir. Et en même temps, en se jetant à terre, est-ce qu'il ne se prosterne pas aussi devant Dieu, devant son Père ? Et puis Marc nous dit qu'il priait une heure la première fois. Une heure. Il a déjà prié une heure ? Dans l'angoisse, hein, pas dans la joie, dans l'angoisse. Dans vraiment le combat. Il prend le temps. Il va répéter ça trois fois. Trois fois. Il n'a pas arrêté la première fois. Il avait besoin absolument de prier et de se confier en ce Père. En même temps, il se soumet à Dieu. Lui, il était là dans le jardin, tout seul, abandonné, on pourrait dire, de tout le monde. Et Satan était là, et lui, ben, il aurait bien voulu... La Bible ne dit pas, mais beaucoup pensent que Satan était en train de le tenter, comme il l'avait fait là dans le désert. Hein. Mais n'y va pas, c'est trop lourd. Hein. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, il le tentait. Et puis Jésus, hein, de dire, est-ce que je peux échapper à cette coupe ? La coupe, c'est la colère, hein, c'est la croix qui allait arriver. Ou on aurait pu dire d'un autre moyen, comment je pourrais sauver les hommes autrement qu'en allant jusqu'à la croix ? Parce que s'il y avait un autre moyen, il aurait peut-être fait. Hein. Il y a plus simple, peut-être. Mais bon, Dieu a décidé que c'est comme ça. Et la réponse du Père, hein, des fois on râle parce que quand on parle à Dieu ou quand on est dans la difficulté, Dieu est silencieux. Et là, le Père, il a répondu à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ? Rien. Rien. Ça ne veut pas dire « débrouille-toi ». Ça veut dire « tu sais que je suis là, mais je n'ai rien à dire pour l'instant ». Donc Jésus lui-même a connu ces silences de Dieu qui, des fois, sont un peu pénibles pour nous. Mais malgré l'insistance aussi de Jésus, Dieu est resté silencieux parce que Jésus savait très bien ce qu'il avait à faire. Il n'y a pas besoin. Des fois, on insiste devant Dieu, on sait très bien ce qu'on doit faire. Hein. On croit qu'à force de parler, à un moment, Dieu va vous envoyer un SMS en disant « ok ». Non, on ne fait pas craquer Dieu. Hein. Mais il était silencieux. Et Jésus se soumet là à la volonté du Père. D'ailleurs, dans Jean, il est dit « il est venu pour ça ». Intéressant quand même qu'il y a une lutte au fond de lui, c'est très bien qu'il est là pour ça, mais en même temps, ben, s'il pouvait trouver un autre moyen, il l'aurait peut-être fait, je ne sais pas. Vous avez déjà lutté à ce point-là dans votre vie ? Je ne pense pas, hein. Personne n'a pu lutter encore à ce point-là. Hein. Mais il va se soumettre à la volonté du Père, et cette soumission va lui coûter cher, parce qu'il est dit, hein, la troisième fois, Jésus agonise. Ça a un impact physique sur lui, parce qu'il va avoir des grumeaux de sang. Les médicaments, ça existe, mais il faut être dans un état d'angoisse extrême. Enfin, il faudrait quand même imaginer qu'il ne va pas juste mourir sur une croix, il va prendre le péché de tout le monde, depuis tous les siècles, et tous ceux qui vont arriver sur lui, d'un seul coup. Hein, comme je l'ai dit hier, nous on a déjà péché une fois, et quand on pêche, on n'est pas bien, on est malheureux. Et quand vous prenez un milliard, des milliards et des milliards de péchés sur vous d'un seul coup, ça va faire bizarre quand même, hein. On ne pourrait pas. Nous. Mais voilà, dans le combat spirituel, Jésus va s'entourer. Ils s'entourent, mais ils ne sont pas terribles, hein, quand même, son aide. On va voir ça maintenant. Mais en même temps, il va prier longtemps et il sait qu'au bout, de toute façon, il doit se soumettre à Dieu. Et dans nos combats spirituels, c'est pareil. Est-ce qu'on sait s'entourer ? Est-ce qu'on sait prendre le temps de prier plusieurs fois, répéter, même si Dieu reste silencieux ? Et puis, ben, dans ces moments de difficulté, il y a aussi des fois la tentation de... d'arrêter et tout ça. Mais bon, de toute façon... Hein, quand on s'intéresse un peu aux disciples... Dans le combat spirituel, justement, alors là, on voit un vrai contraste entre Jésus et les disciples. Hein. On peut faire un constat qu'ils n'étaient pas vraiment un grand soutien. Hein. Pendant que Jésus agonisait, eux, ils faisaient quoi ? La sieste, hein. Canapé. Et une espèce de sommeil chronique aussi à ce moment-là, hein, parce que quand même, chaque fois, ils auraient pu veiller quand même une demi-heure, un petit peu quand même, je ne sais pas. Jésus, il leur avait dit qu'il allait à la croix, donc je ne sais pas, pas très sympa. Mais ça démontre leur spiritualité à ce moment-là. Ça démontre comment ils étaient à l'intérieur. Puis leur soutien pour Jésus-Christ. Hein. Et trois fois, le Seigneur va les trouver endormis. Alors, ils avaient les yeux lourds. Ils étaient endormis de tristesse. Vous êtes endormis des fois de tristesse ? Ça nous arrive, hélas. Mais Jésus ne dit pas, mes pauvres petits, hein. Il ne fait que des reproches. Il fait des reproches. Et quelque part, quand nous nous endormons spirituellement, ben, on peut peut-être se prendre ces reproches à nous aussi. Il va s'adresser d'abord à Simon, et il ne dit pas Pierre, il dit Simon, c'est son ancien nom. On pourrait dire qu'il parle un peu à l'homme charnel, hein, celui qui manque de vigilance. Souvenez que Pierre avait dit bien avant, hein, quand tu iras mourir à Jérusalem, moi je viens avec toi et on ira mourir tous ensemble. Hein. Vous connaissez la suite. Là déjà il s'endort et après il va le, trahir, le renier. Donc Jésus lui fait un reproche pour son manque de vigilance. Est-ce que nous, quand nous dormons spirituellement, est-ce qu'on entend ce reproche de Dieu aussi des fois? Parce qu'on ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais Dieu le dit là quelque part, le Seigneur le dit. En même temps, ça démontre notre fragilité en tant qu'homme, hein. L'esprit est bien disposé. On est tous prêts à suivre Jésus, non? Dites-moi oui quand même, s'il vous plaît. Ouais. Mais après, voilà, la chair est faible, hein. On a l'intention, on a envie. Mais à un moment, ben, face à la difficulté, je pense que si on était dans le jardin à ce moment-là, on aurait fui avec les autres, hein, sans problème. Je verrais pourquoi surtout. Et puis à un moment quand même, à force de répéter à Jésus, de leur faire ce reproche, mais ils sont un peu gênés quand même, hein, mais ils ne savaient pas quoi répondre, dit le texte. Puis il leur dira finalement, dormez maintenant, reposez-vous. Jésus leur fait comprendre tout simplement leur culpabilité. On n'est pas appelé à dormir. Il donne un ordre, le Seigneur, à ce moment-là, que dans le combat spirituel, le chrétien doit veiller et doit prier, parce que sinon il va tomber en tentation. Il a averti plusieurs fois. Et ça va arriver juste après. Et on croit des fois que sans prier, sans veiller, sans être attentif, on pourrait dire, ben, on peut affronter toutes les choses de la vie, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas affronter. Il faudra passer forcément par la prière. Et si on ne veut pas, ben, le Seigneur vous forcera de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Si je ne veille pas, ça ne veut pas dire être paranoïaque, on s'entend bien. Veiller, c'est être toujours en relation avec le Seigneur. Prier, c'est pas prier tout le temps non plus, mais c'est avoir un temps avec le Seigneur, plus ou moins long, ça dépend de chacun, mais veillez et priez parce que sinon ben, le diable est là et lui, il nous fera tomber facilement. Et puis conclut ce dialogue avec les disciples, il dit c'est assez. J'imagine qu'il a dû dire ça assez sévèrement, c'en est assez maintenant, ça suffit quoi, hein, là, vous qui dormez. Il réveille les disciples et il leur dit que ben, la tentation va venir maintenant, hein. Maintenant ça va venir, vous avez dormi mais vous auriez dû vous préparer. Mais ils ne sont pas préparés, on va voir ce qui va arriver. Jésus nous montre l'intensité du combat spirituel. Ce n'est pas juste une petite blague ou un mot qu'on dit comme ça. On a aussi des combats comme ça, peut-être pas comme Jésus, mais il y a des fois des luttes dans notre vie et il faut les prendre au sérieux, hein, et les attaquer du bon angle, et comme le Seigneur l'a fait. Il y a des combats spirituels, mais le Seigneur nous a donné des armes et un exemple surtout là-dedans, comment lutter dans ces moments-là. Heureusement, le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Merci Seigneur. Mais souvent, il tend les mains et nous... On ne les veut pas. C'est ça le problème. Alors quand on s'intéresse à la manière de combattre, hein, comme le Seigneur a fait, d'abord on voit que ce qui était spirituel jusqu'à présent, parce que c'était dans le cœur de Jésus, va devenir complètement concret, puisque maintenant Judas va arriver avec toute cette foule. Alors Judas Iscariote, vous le connaissez, hein, Iscariote c'est le surnom originaire de Kyriote. On pense qu'il n'était pas galiléen, mais bon, c'est pas important. Jésus, dès le début, savait, au moment où il a choisi, qu'il allait le trahir. Il y a déjà eu quelqu'un comme ça, vous savez qu'il allait vous trahir, et pendant 3 ans et demi environ, il va se balader avec vous, vous allez l'aimer, hein, vous allez faire du bien, et même jusqu'au bout, vous allez voir. Il y a déjà eu quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que vous le feriez? Oh mon coco, viens voir, hein. Je vais t'expliquer la vie. Hein. Ben oui. Mais dès le début, le Seigneur savait ce qu'il attendait, de toute façon, hein, déjà la croix, mais en même temps, qui allait le trahir? Et il l'a toujours aimé. C'est impressionnant, donc on y réfléchit un petit peu. C'est impressionnant. Et on peut se poser la question, pourquoi Jésus a trahi, hein, tout à l'heure Rémi a un petit peu répondu, ben, pourquoi Judas a trahi Jésus, on va y arriver, hein. Ben, certainement que Judas, il voulait voir Jésus comme roi et foutre les Romains un peu dehors et puis qu'il devienne le roi, et voilà. Hein. Mais là, au bout de 3 ans et demi, il n'a pas fait grand-chose le Seigneur. Hein. Il a surtout annoncé l'amour de Dieu et le royaume, mais il n'a pas pris les commandes. Alors certains pensent aussi qu'il était cupide puisqu'il avait la bourse, et dans la bourse de temps en temps, hein, pour moi, un petit voleur. On verra bien un jour, le Seigneur nous expliquera pourquoi vraiment il a trahi Jésus. Mais passer 3 ans et demi avec un tel homme qui aimait quelqu'un qu'il savait qu'il allait le trahir, qui a démontré son amour autour de lui tous les jours, à un moment, ça aurait quand même travaillé son cœur, non? Vous voyez qu'on peut être fermé à Dieu à un point, c'est terrible. Même s'il était à côté de nous, s'il nous aimait, on pourrait lui dire non, des fois. On est terrible. Donc Judas trahit pour 30 pièces d'argent, hein, et le Sanhédrin avait émis un mandat d'arrêt, et puis Judas va marcher devant la foule. Avec là, il y avait une cohorte, hein, souvent on se dit qu'il y a 3-4 soldats, mais une cohorte, c'est 600 soldats. Imaginez le monde là, dans 50 mètres. Il y a du monde hein, qui venait arrêter Jésus. Un homme, 600 hommes pour l'arrêter. Franchement, c'est pas la honte, quelque part qu'on y réfléchit. Hein. Avec des armées, avec des bâtons, des épées, des lanternes, des flambeaux, ça veut dire qu'il faisait nuit donc. Et dans la foule, il y avait des religieux, ces gens qui ont une belle religion, mais qui viennent là pour tuer Dieu, tout simplement. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, enfin il y avait tout le monde en fait, hein, quasiment, qui était là pour arrêter Jésus. Et Judas avait convenu avec la foule que c'est par un baiser qu'il allait trahir Jésus. Il faut savoir qu'un baiser sur la joue ou sur la main à ce moment-là, c'était un geste d'affection et de respect du disciple pour le rabbin. Mais en faisant ça, lui, il trahissait. Donc c'est terrible. Et puis il dit « Salut Rabbi ». Rabbi, ça veut dire maître. Il le reconnaît comme maître. C'est là où j'arrive pas à le comprendre quelque part. Il savait qui était Jésus. Enfin, en partie, il le reconnaissait comme maître, mais il va quand même le trahir. C'est triste. Il reconnaît que Jésus est son maître, mais ne le suit pas. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on reconnaît que Jésus est mon Seigneur, mais bon, je fais ma vie, tranquille. Et pourtant, Jésus va aimer Judas, puisqu'il va lui dire « mon ami ». Il vient le trahir, il lui dit « mon ami ». En grec, c'est « mon compagnon, mon associé ». Mais il y a quand même là un geste d'affection. Il dit « mon ami, moi que je t'aime, va accomplir tes projets, va faire le mal que tu vas me faire ». On a été comme ça déjà avec quelqu'un qui nous détestait. « Mon ami, je t'aime ». C'est plutôt l'inverse, hein. Mais après, dessus. Mais il y a des leçons à apprendre, hein. Aimer son ennemi. Le Seigneur le dit, lui, il l'a démontré, il l'a fait. Et il a fait pire que nous, parce que nous, l'ennemi, on l'a souvent assez rapidement devant nous, mais lui, c'était pendant 3 ans, 3 ans et demi environ. Et puis là, on va voir les disciples qui vont commencer à se mettre à combattre, on pourrait dire, dans ce combat spirituel, mais ils vont le faire plutôt avec la chair. Les disciples posent la question à Jésus, hein, « Devons-nous frapper de l'épée ?» Ça sous-entend, et je n'avais jamais réalisé, qu'ils avaient certainement une épée à côté. Puisqu'ils vont combattre avec l'épée à un moment. Enfin, Simon. Et Simon, on le connaît, hein, Pierre, il est très impulsif. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il n'attend même pas la réponse de Jésus. Et, coupe l'oreille. Ça ne va pas lui faire du bien à Malchus. Mais bon, on reconnaît Simon, il fait comme il a envie, toujours. Il n'attend pas la réponse de Dieu. Et dans notre vie, bien souvent, on est impulsif aussi. On ne prend pas le temps d'attendre la réponse qu'on a demandé à Dieu. Des fois, on pose des questions à Dieu, et puis, j'ai déjà agi avant qu'il ait répondu. Alors, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, on n'a toujours pas de réponse. C'est une réponse, quelque part. Il n'y a pas de réponse, ou il n'y a rien à faire pour l'instant, vous attendez. Les silences de Dieu. Des fois, hein, j'aimerais l'entendre. Enfin, moi, j'aimerais bien l'entendre. Vous, je sais que vous n'êtes pas fait, mais moi, des fois, j'aimerais bien l'entendre. Et donc, Simon va couper l'oreille droite de Malchus et Jésus lui dit évidemment de s'arrêter. Il s'adresse à Pierre et lui dit « Range ton épée, t'as rien pigé. » On va le franciser quelque part. « T'as rien compris au plan de Dieu, t'as rien compris à ce qui se passe à ce moment-là. » C'était le plan de Dieu tout ça. Et Jésus n'avait pas besoin d'être défendu parce que Dieu, comme il dit, il aurait pu lui envoyer 12 légions d'anges. Ça fait 72 000 anges contre 600 soldats de la cohorte qui auraient gagné. Il aurait pu très bien se défendre. Et il ne le fait pas. Parce que Christ est venu, comme il le dit, accomplir les Écritures. Il est venu depuis qu'il est venu sur la terre pour mourir sur cette croix. C'était son projet à lui. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que sinon, nous, on ne pourrait pas être sauvés aujourd'hui. Les victoires dans le royaume de Dieu, ou dans ce combat spirituel, ça ne s'obtient pas avec la chair ou avec les armes, on va dire, terrestres. Il y a d'autres armes. C'est une lutte spirituelle qui est là. Et Jésus luttait de cette manière-là. Et quand je vois l'amour de Jésus malgré l'opposition, hein, Jésus aurait pu laisser le Malchus avec son oreille coupée, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser la main et va le guérir. L'amour de Jésus. C'est son ennemi, hein, Malchus aussi. Hein, c'est son ennemi. Il va le guérir. Et là, à ce moment-là, on aurait pu se poser la question, enfin, ils auraient pu se poser la question, tiens, il vient de guérir l'oreille qui était coupée. Voilà. Ça vous arrive tous les jours, hein, de ramasser une oreille, de la remettre dessus, et puis c'est guéri. Petit miracle quand même, hein, un miracle qui vient d'arriver là. Mais bon, ça gêne personne, enfin bon, on continue comme d'habitude. Ça aurait dû les réveiller un petit peu. Hein, ils auraient dû se poser des questions, mais quand même, c'est qui cette personne qui arrive à faire un tel miracle? Non, c'était parti dans la haine. Donc le combat spirituel ne se remporte pas avec la chair, et ses chers disciples à ce moment-là ne l'avaient pas encore compris, mais c'est selon le plan de Dieu. Même dans ma vie, quand il y a des épreuves, Dieu les permet parfois, c'est parce qu'il a un plan pour moi. Je peux lutter avec ma chair, me débattre comme on sait le faire très bien, Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter et laisser faire Dieu. Alors ça peut durer, ça peut être long des fois, ça peut être difficile, mais Dieu a un plan même dans mes difficultés. Et c'est en regardant en arrière qu'on peut dire, oui, c'est vrai, effectivement, Dieu a chaque fois un plan pour nous quand on passe dans des difficultés. Mais bon, c'est vrai qu'au creux de la tempête, ce n'est pas toujours simple. Puis si on s'intéresse à la souveraineté de Dieu, à ce Dieu qui est là, qui gère les affaires, mais on a l'impression qu'il ne les gère pas, mais il les gère bien, et dans le combat spirituel, on voit surtout d'abord que Jésus va démontrer sa divinité et la présence de Dieu. Hein. Jésus demande de laisser d'abord aller les disciples. Je sais pas parce que c'est pour ça que j'ai voulu tout lire. À un moment, il dit « Laissez aller ceux-là, les disciples. » Ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe à ce moment-là. Intéressant, ça. Hein, parce qu'il dit dans Jean 6, 39, « Ils ne devaient perdre aucun d'entre eux. » Dans le combat qu'il mène, lui, il est en train de protéger ses disciples. Et c'est intéressant parce que souvent, on voit les 11 qui fuient, là, hein, quand Jésus se fait arrêter. On voit plutôt ça, mais on oublie que, que Dieu a tout fait pour protéger ses disciples à ce moment-là. Oui, ils ont fui, mais c'est parce que Dieu voulait aussi les protéger. Ça, on l'oublie souvent. Ils ne devaient pas être touchés à ce moment-là, parce qu'on sait très bien que plus tard, quand l'Église naîtra, quand le Saint-Esprit viendra, à ce moment-là, ils vont devoir agir, ils seront les apôtres, et là, ils seront prêts à mourir pour le Seigneur. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit entre-temps aussi, il faut voir. Donc, ils ne pouvaient pas lutter à ce moment-là. Mais Dieu les a préservés. C'est là où on voit la souveraineté de Dieu dans ce qui nous paraît complètement fou, hein, être arrêté comme ça. Hein. Jésus arrêté, c'était inimaginable pour eux. Mais pourtant, Dieu, tranquillement, fait son plan, souverain. Puis Jésus va dialoguer avec la foule, intéressant, pour être reconnu certainement par elle. Hein, et il dit « Qui cherchez-vous ?» Il dit « Jésus de Nazareth ». Et il dit « C'est moi ». Mais littéralement, il dit « Je suis ». Ça vous rappelle quelque chose ? Dieu, en l'Ancien Testament, quand on lui a posé la question « Comment tu t'appelles ?»« Je suis celui qui suis. » Et en disant « C'est moi » ou en disant « Je suis », il était en train d'affirmer à cette foule « Je suis Dieu. » Et ils auraient dû réfléchir à ce moment-là. « Je suis Dieu. Hein, je suis divin. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et la foule va réagir, ils vont reculer, ils vont tomber. Alors on ne sait pas pourquoi ils sont tombés. Est-ce qu'ils ont eu peur quand ils ont entendu ça ? Est-ce qu'ils étaient admiratifs ? Je ne pense pas, vu la suite. On ne sait pas très bien pourquoi ils sont tombés. Et il repose la question. C'est un peu comme nous, quand on demande à Dieu 15 000 fois s'il est vraiment Dieu. Au début, quand on se convertit, « T'es vraiment Dieu, t'es vraiment Dieu, t'es vraiment Dieu, on veut des preuves, on veut des preuves. » Et Jésus répond de nouveau. C'est intéressant parce que là, il leur dit qui il est, et il leur laisse encore le temps et la possibilité de changer, de reconnaître qu'il est vraiment divin et qu'il est Dieu. Intéressant, même si ça allait peut-être vite. Mais c'est de l'amour encore de Dieu. Je vous laisse une possibilité là, de changer d'attitude. Mais bon, évidemment, ils ne vont pas vraiment réfléchir à ce moment-là. Et Jésus va faire aussi remarquer la souveraineté de Dieu encore là, hein, puisqu'il dit « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous aurez pu me choper n'importe quand, n'importe où, rien ne s'est passé. » Parce que ce n'est pas le plan de Dieu à ce moment-là. C'était à un moment bien précis qu'il devait se faire arrêter. Dieu a choisi son temps. Lui, il n'est pas pressé, il est tranquille. Hein. Nous, on est des fois complètement stressés, mais lui, il a son plan. Il sait très bien comment les choses se passent. Et en même temps, ça nous soulage, nous, parce que quand on voit ce qui se passe dans ce monde, des fois, on a l'impression que Dieu n'est plus aux manettes. Si, si, tranquille, il n'est pas pressé. Et on doit se souvenir de cette souveraineté de Dieu. Dieu avait un plan, il avait aussi un temps, et ce temps était déjà préparé de toute éternité, puisque Jésus était prévu depuis toujours pour aller vers cette croix. Donc, Dieu n'est jamais stressé, ça c'est bien quand même, hein. Jamais être stressé, savoir ce qui va se passer, on aimerait bien être à sa place. Hein. Quand on est dans l'épreuve, on aimerait bien savoir que dans 3 semaines c'est fini, non, ça vous dirait pas ? Ok, je vous fais l'épreuve, mais vous avez 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bon, quand il y a un mois, on dit stop, hein. On ne veut pas savoir. Bah non, il faut apprendre que Dieu est aux commandes et lui faire confiance. Et puis finalement, Jésus accepte le combat puisqu'il se laisse arrêter. Il dit « c'est l'heure de la puissance des ténèbres ». Et c'est vrai que c'était quelque chose de terrible. Le diable, il devait exulter à ce moment-là. Ouais, le Fils de Dieu est arrêté, on va le crucifier. Mais vous n'imaginez pas, c'est une victoire pour lui quelque part. Mais en même temps, j'ai envie de dire, et c'était aussi la victoire de Jésus sur Satan, parce qu'il venait de le tenter, lui ou lui-même. Hein. Mais il avait perdu. Il avait perdu. Et Jésus se laisse volontairement arrêter. Hein, c'est pas les gens qui l'arrêtent, c'est lui qui dit, c'est moi, je suis là. Vous pouvez m'arrêter maintenant. C'est comme sur la croix, on ne s'en rend pas compte, mais à un moment, c'est Jésus qui dit, je te rends mon esprit, c'est moi qui décide maintenant de mourir. Ce n'est pas les hommes qui m'ont fait mourir, c'est moi qui meurs. C'est pas du suicide, on se comprend bien. Hein. On se souvient qu'il est tordu. Mais c'est Jésus qui a décidé à un moment précis de se laisser arrêter. C'est lui qui a accepté aussi de donner sa vie totalement en sacrifice. Il accepte l'injustice. Facile ça, l'injustice. Dès qu'on est un petit peu injuste avec nous. Il accepte l'abandon des disciples, d'abord, ceux avec qui il a travaillé pendant 3 ans, qu'il a formé, etc. Pas très sympa, quoi. Et puis il va être abandonné du Père. Ça donne envie, hein, pour les vacances, non? Ça vous dit pas? C'est terrible, quand même. Hein. Alors qu'il était parfaitement obéissant, qu'il n'avait jamais péché, fait aucun mal. Voilà ce qui lui arrive. Nous, hein, on se plaint déjà dès qu'il y a une petite injustice, alors qu'on n'est pas déjà juste nous-mêmes. Hein, mais bon, là, c'est quand même un sacré contraste. Et puis, on a vu, les disciples vont fuir, et c'est intéressant parce qu'il est dit « tous ». Au début de la phrase, il est écrit « tous ont abandonné Jésus ». Tous ont fui. Nous, on aurait fui avec tout ça, parce que, juste avant, il leur a dit « veillez et priez ». Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit non plus, je pense, à ce moment-là. Mais bon, il y a quand même une leçon, je pense, à retenir là-dedans. Mais, voilà, ils ont fui, comme je l'ai dit, Dieu est souverain aussi. Il a voulu les épargner à ce moment-là. Parce que entre Pierre qui va renier Christ et d'autres, ça a dû travailler leur cœur, à mon avis. Il y avait une préparation avant de pouvoir former l'Église. Ils devaient vraiment être humiliés au fond d'eux. Mais Dieu avait aussi un projet pour eux dans la suite, et donc ils devaient être épargnés à ce moment-là. C'est marrant, ce jeune homme-là qui s'enfuit nu dans la nuit. On pense que c'est Marc. Alors, c'est écrit dans Marc, mais il n'a pas écrit que c'était lui. Bon. Mais on voit surtout là, je ne sais pas si vous êtes déjà enfui nu. Non, je pense pas. Enfin, j'espère que non. Hein. Mais on voit la peur. On voit la peur de Marc hein, par rapport aux événements qu'il y avait là. Et en même temps, en contraste, on voit toute la solitude de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il devait être seul à ce moment-là? Jésus accepte finalement la coupe. Il est 2h30 environ du matin. Jésus est complètement seul. Ça donne l'impression qu'il a perdu le combat spirituel. Hein. Le diable, il devait être content. Il disait, ouais, ça y est, j'ai réussi à l'arrêter. Il est seul, puis il y a 6 procès qui vont suivre ensuite, hein, 3 avec les Juifs, 3 avec les Romains, et puis à 9h du matin, Jésus va offrir sa vie sur la croix pour nous. Donc 6 procès, puis 3 jours plus tard, il ressuscite et offre une espérance à tous ceux qui croient en lui. Si Jésus était resté sur la croix, s'il était mort, vous auriez une espérance? Ben non. Il y en a plein qui sont morts, hein. Il y a plein de héros qui sont morts sur des croix ou d'une autre manière, mais Jésus, lui, est ressuscité. Et il offre à tous ceux qui croient en lui cette espérance un jour de ressusciter nous aussi. Et puis Jésus a démontré aussi les effets de l'obéissance à Dieu à ce moment-là. Si Jésus n'avait pas obéi, vous ne serez pas là ce matin. Puis on serait perdu pour l'éternité. Mais l'effet de l'obéissance à Dieu, ça a un impact sur les autres. Et là, c'est évidemment le salut pour les hommes. Mais quand moi, je suis obéissant à Dieu, eh bien, ça a aussi un impact sur les autres. Et on oublie souvent ça dans notre vie. Elle rappelle aussi que malgré les apparences, hein, Jésus est arrêté, on a l'impression qu'il est perdu, que c'est fini. Malgré les apparences, ben, Dieu, tranquillement, toujours, hein, paisiblement, a le dernier mot, puisqu'il sait que 3 jours après, il va ressusciter. Dans le combat spirituel, on doit se souvenir que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Quand j'ai l'impression qu'il n'est pas là, quand j'ai l'impression que c'est perdu d'avance, Dieu est là, silencieux. Mais il est là. Et c'est à moi de le croire, c'est pas à lui de me croire. Moi, je dois croire qu'il est là. Et il l'a démontré plusieurs fois dans ma vie. Et donc, si vous êtes un peu perdu un jour, entourez-vous éventuellement, si vous avez la chance, vous aurez un ange, mais entourez-vous et surtout n'oubliez jamais que Dieu est là et a un plan pour vous. Pour terminer, pour moi, Gethsémané, ça rappelle la réalité du combat spirituel. On sait que le diable rôde autour de nous, on sait qu'il y a un tas de choses, mais c'est une réalité, et on l'oublie. Hein, c'est souvent très loin, hein, quand on est au boulot, vous pensez que le diable rôde pour vous faire tomber? Pensez à votre patron qui est en train de râler, hein, plutôt. Mais c'est aussi le diable, quelque part, des fois, qui est autour. Et en même temps, on a vu avec ses disciples, Satan veut endormir. Hein. Dormez spirituellement, endormez-vous, c'est bien dormir, non? Vous n'aimez pas dormir? Oh, si, moi j'aime bien dormir. Hein. Et même spirituellement, parce que c'est tranquille, on ne lutte pas. Mais ça, c'est le diable qui est là. Et une fois que vous êtes bien endormi, miam miam, je vais vous croquer. Il est là et il rôde comme un lion rugissant, mais d'abord il nous endort. Jésus a démontré que dans ce combat spirituel, c'est une lutte et qu'il faut lutter avec Dieu, avec les armes qu'il nous donne et pas tout seul. Nous avons encore beaucoup de combats. pas très rassurant ce que je vous dis là, mais il y a encore beaucoup de combats dans notre vie et dans votre vie. Alors comment je vais les gérer? Est-ce que je vais prendre le temps d'apprendre à prier? Est-ce que je vais insister dans cette vie de prière? C'est pas au moment où on doit combattre qu'on doit commencer à se mettre à prier. C'est bien avant. C'était avant que les disciples auraient dû prier, avant que les soldats arrivent. Pas au moment où ils arrivent, ils ne pouvaient pas à ce moment-là. Apprendre à prier, à insister, et même si des fois Dieu est silencieux, même s'il ne dit rien. Dieu est là, Dieu sait, Dieu m'entend, et il agira en son temps. En même temps, on peut se réjouir parce que derrière les apparences, une apparence que le diable avait gagnée à ce moment-là, on a vu que Dieu est souverain et nous protège. Et dans nos combats, dans nos difficultés, on peut se réjouir, en fait. Ben oui, puisque de toute façon, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors la prochaine fois que vous avez une difficulté, réjouissez-vous, non ? Ça va apparaître sur des noms, vous n'allez pas vous réjouir quand vous avez mal, quand vous souffrez, non ? C'est bizarre, hein ? Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Alors, on comprend bien la douleur de l'épreuve, on est bien d'accord. Mais derrière, je peux me réjouir parce que je sais que quelqu'un veille sur moi et connaît toutes choses. Et ça, ça me rassure quelque part, et ça me donne de l'élan aussi pour aller de l'avant. Et Gethsémané, on peut simplement dire merci au Seigneur d'avoir accepté une telle épreuve. Non seulement Gethsémané, c'était terrible, mais la croix, ça a été encore, à mon avis, pire. Mais il a accepté pour moi, qui ne l'aimait pas, qui le refusait, qui le détestait, qui l'ignorait. Et un jour, il s'est approché de moi et il m'a fait découvrir son amour. Et j'espère que vous l'avez rencontré dans votre vie. Seigneur, en cette période de Pâques, nous voulons penser à cette lutte que tu as acceptée pour chacun d'entre nous. À cause de notre péché, nous ne méritions absolument rien, ni de ton amour, ni de ce pardon que tu as offert, mais tu as accepté ce combat spirituel, Seigneur, d'abord à Gethsémané, qui nous enseigne tellement de choses pour nous-mêmes, et même si tu étais Jésus, si tu étais divin, mais nous avons là des choses à apprendre, comme on l'a dit, veiller, prier, pas simplement le savoir, mais le vivre au quotidien, parce que le diable rôde et veut nous faire tomber, il veut nous endormir l'Église pour qu'elle ne rayonne plus, pour qu'elle ne témoigne plus autour d'elle. Seigneur, apprends-nous à être réveillés, pleinement réveillés pour pouvoir te servir. Merci Seigneur, parce que tu aurais pu t'en aller, tu aurais pu abandonner tout cela, et tu as accepté malgré tout de te soumettre à ton Père. Et Seigneur, quand nous nous regardons nous-mêmes, à quel point nous sommes vraiment soumis au Père, apprends-nous à te suivre en tant que modèle, à nous soumettre, à obéir à notre Dieu réellement, Seigneur, et pas simplement intellectuellement. Apprends-nous aussi à être admiratif de cette croix que tu as acceptée pour chacun d'entre nous, la souffrance, certes, mais tout l'amour que tu as développé là pour que nous puissions, nous, être sauvés un jour, pour que nous puissions, nous, un jour, avoir cette espérance de ressusciter aussi et de passer l'éternité avec toi. Que ton nom soit glorifié éternellement en Jésus-Christ. Amen. Amen.